Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique. Aujourd'hui, avec Julien Clémenceau de Jeune Afrique. Bonjour Julien.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons le président du MEDEF, le Mouvement des Entreprises de France, le patronat français. Bonjour Pierre Gattaz.
Bonjour Monsieur Bouris.
Pierre Gattaz, en général, nous recevons à ce micro des économistes, des banquiers, des entrepreneurs africains ou ayant une excellente connaissance de l'Afrique. Vous n'êtes ni africain ni africaniste. Pourtant, au cours des dernières années, vous avez effectué de nombreuses missions en Afrique pour resserrer les échanges économiques et commerciaux entre les entreprises françaises et les marchés africains. Tout ce temps que vous avez passé en Afrique, on imagine facilement que vous l'avez passé dans des berlines, des convois, des réunions officielles, dans des hôtels internationaux. Est-ce que vous diriez que vous connaissez l'Afrique ?
J'étais aussi voir des entreprises et des entrepreneurs et j'ai visité des entreprises africaines. Écoutez, je découvre l'Afrique depuis 2-3 ans, c'est vrai, mais je vois un continent immense, des gens charmants, un développement économique de 5% par an, une population qui va passer de 1 milliard à 2 milliards d'individus en 2050, et donc avec des besoins, de tout type de besoins. Et moi, ça m'interpelle beaucoup, et comme je suis avant tout entrepreneur et que je suis là pour défendre les entreprises, qu'elles soient françaises ou africaines d'ailleurs, c'est pas le problème, mais je vois du développement économique que nous, les Français, nous pouvons accompagner dans une approche gagnante-gagnante surtout, et en toute humilité.
Vous avez parlé d'entreprise, est-ce que vous vous êtes tout banalement promené dans la rue, dans les capitales africaines?
Oui.
À est-ce que vous êtes allé dans des maquis? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un maquis?
Écoutez, j'ai pas été jusque-là, parce que à chaque fois je passe quelques jours, malheureusement, et on a beaucoup de réunions, c'est vrai, on visite des entreprises, on va au contact de la population lorsqu'on va dans des restaurants, etc.
Une entreprise qui vous a marqué en Afrique?
Alors, écoutez, j'ai été voir à Abidjan un incubateur français basé en Afrique qui ont démarré très vite en Afrique et qui aident des start-upers africains et africaines formidables. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement bien parce qu'en effet, il y a un dynamisme des jeunes africains et africaines autour de la nouvelle économie avec des applications remarquables. Et c'est là où je me suis aperçu aussi de cette jeunesse qui représente en fait la moitié de la population en Afrique de moins de 25 ans et un dynamisme incroyable et des talents numériques absolument fabuleux.
Question de Julien Clémenceau pour Jeune Afrique.
Dans un peu plus d'un an, vous quitterez la présidence du MEDEF. Est-ce que l'Afrique va garder une place dans votre cœur?
Oui,
votre vie.
Et dans ma vie et dans mon cœur, oui, mais pourquoi? Parce que, si vous voulez, nous, on essaye de développer en tant qu'entrepreneur des projets non pas à 3 mois ou à 6 mois, mais à 10, 20, 30 ans. Et je crois que le continent africain, le développement africain, nécessite une vision à 20 ou 30 ans. On ne peut pas y aller pour 3 mois, repartir, revenir, faire un coup de business et on revient. Moi, je crois que ce grand pays, ce grand continent, nécessite un développement durable, un accompagnement. Gagnant-gagnant, je voudrais vraiment insister là-dessus. On apprend des Africains, on apprend des entreprises africaines qui peuvent d'ailleurs venir investir en Europe et en France. Et je crois que dans cette vision à 30 ans, la France a un rôle tout à fait particulier qu'on a eu à une époque, mais qu'il faut remettre en œuvre.
On va en parler dans cette émission, voilà, Pierre Gattaz, parce qu'on va parler économie africaine, bien
d'accord.
Sûr, mais vous êtes aussi le patron des patrons français, et en cette période d'élection présidentielle, j'indique à nos auditeurs que nous allons bien sûr évoquer dans quelques instants votre positionnement à vous, au MEDEF, à vous, Pierre Gattaz, face aux enjeux de l'élection présidentielle française. Pierre Gattaz, l'ambiance délétère dans laquelle se déroule la campagne présidentielle française préoccupe-t-elle le représentant du monde entrepreneurial français que vous êtes ?
Oui, bien sûr. Nous, ce que nous souhaitons, si vous voulez, c'est que pour la France, on ait un président qui remette l'entreprise au milieu du village, comme on dit vulgairement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous regardez la France, mais quand vous regardez l'immense majorité des pays dans le monde, ils ont besoin de quoi ? Nous avons besoin de quoi ? Nous avons besoin d'emplois. Voilà. partout que vous êtes. C'est de l'emploi qu'il faut.
Mais si remettre l'entreprise française au milieu du village, c'est très bien, mais si le village est à feu et à sang.
Mais il n'est pas à feu et à sang, si vous voulez d'abord, mais je crois qu'en effet, l'entreprise permet d'apporter de l'emploi, du pouvoir d'achat aux gens, de la croissance pour un bassin d'emploi, une région, un pays, de la richesse par habitant. Et je dirais, quand vous avez de l'emploi, c'est le premier besoin de fierté, de dignité, d'épanouissement. Le travail, c'est, comme on dit, c'est la santé, mais au-delà de ça. Et c'est vrai que certains candidats sur le travail, qu'ils ne voient que de la souffrance et de la pénibilité, ça m'interpelle terriblement. Non, le travail,
c'est... Vous faites allusion à qui, ça?
À Benoît Hamon. À Benoît Hamon. Qui, en effet, a comparé le travail à de la souffrance. Mais c'est vrai qu'il y en a dans certains cas de figure, mais le travail, avant tout, c'est la dignité, c'est l'épanouissement. Vous savez, j'ai été voir Tédé Carmonde il y a quelques jours à Noisy-le-Grand, et bien des gens d'une extrême pauvreté, qu'est-ce qu'ils veulent avant tout? Ils veulent du travail, ils veulent de la dignité par le travail, ils veulent avoir l'image de l'autre sur soi-même. C'est ça. Et donc je pense que qui peut apporter du travail, c'est l'entreprise. Et beaucoup de pays l'ont compris, si vous voulez, tous les dragons asiatiques, la Chine, la Corée, bon. Mais et la France, parfois, on a encore l'impression que certains hommes politiques n'ont pas compris ça et évitent soigneusement d'en parler, vous voyez.
Notre combat,
c'est de remettre l'entreprise au centre des préoccupations de la politique française.
Julien Clemenceau.
Vous êtes vous-même chef d'entreprise, puisque vous avez succédé donc à votre père à la tête de l'entreprise familiale Radial. Quelle place vous donnez à l'exemplarité dans la gestion de vos affaires?
C'est fondamental. L'éthique et l'exemplarité, je dirais, c'est fondamental, c'est l'exemplarité du chef. Il faut dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit.
Donc c'est non négociable.
Mais c'est pas négociable, parce que si vous voulez, vous pouvez pas entraîner des gens dans une aventure entrepreneuriale si vous montrez pas l'exemple. Donc il faut montrer l'exemple, et puis on essaye en effet de vivre avec des valeurs et des convictions. Vous savez, une entreprise...
Mais c'est quoi donner l'exemple?
Bien, une entreprise comme Radial...
Un exemple?
Je vais vous donner un exemple. On a défini deux choses importantes, c'est une vision. Donc on travaille toujours avec des visions à 5, 10, 15 ans. Aujourd'hui, nous sommes en train de bâtir Radial 2025 avec nos salariés, avec nos collaborateurs. Qu'est-ce qui va se passer dans l'industrie du futur, dans l'impression 3D, etc. Et deuxièmement, ce sont des valeurs. Les valeurs, c'est un peu l'esprit de l'entreprise. C'est le règlement intérieur, c'est les valeurs d'une maison comme Bouygues. Et à Radial, nous, c'est l'éthique, c'est l'innovation, c'est l'excellence opérationnelle.
Et c'est quoi l'éthique chez Radial?
L'éthique, si vous voulez, c'est de faire en sorte que on ne triche pas avec des règles existantes, on ne fraude pas, on ne va pas chercher des marchés en donnant des enveloppes, etc. Et ça fait très très longtemps que ça dure, parce que si vous voulez, c'est notre éthique, c'est de dire il y a des règles du business dans le monde entier, on les respecte. Et on préfère ne pas avoir de marché, de perdre des marchés.
Vous en avez déjà perdu?
J'en ai perdu plein, c'est sûr. Ah, ça c'est sûr, si vous voulez. Ah, mais c'est sûr. Mais après, si vous voulez, moi je me concentre sur l'innovation. Je me concentre sur l'excellence opérationnelle. J'ai mis, par exemple, 7 ans à conquérir le compte Boeing à Seattle, aux États-Unis. 7 ans avec une rentabilité faible pour nous. On a investi dans une quinzaine d'ingénieurs à temps plein. Et on leur a fait des composants, des protos, des maquettes. Et puis, c'était pas suffisant, etc. Donc, 7 ans. Et au bout de 7 ans, ils ont vu que la créativité de Radial était formidable, que l'excellence était là, que les produits sont bons. Au bout de 7 ans, on a commencé à avoir des parts de marché. C'est ça, c'est pas... Vous voyez, c'est de montrer par l'excellence des produits et des hommes et des femmes de Radial... que nous sommes des champions dans notre catégorie. Voilà.
Cette exigence en matière de gouvernance, est-ce qu'elle est transposable à la vie politique? Est-ce qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir?
Oui, bien sûr, et je crois que il est important, très important, qu'il y ait une éthique des affaires et qu'il y ait une éthique du monde politique. Alors après, ça évolue tout le temps, parce que...
Ça vous semble être le cas?
Ça me semble important. Alors après, vous avez des zones de flou, vous avez des habitudes, vous avez des choses qui n'ont pas été mises à jour. Il faut les mettre à jour. C'est comme les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, on m'interview souvent, vous êtes d'accord, monsieur Gatta? Je dis non, il faut les supprimer à terme. Bon, ils existent aujourd'hui, et que certaines entreprises en profitent. Ils ne fraudent pas avec les paradis fiscaux, puisque c'est légal. Mais il faut les rendre illégales. Mais tant que c'est légal, certains jouent avec, ou tant que c'est flou. Quand c'est flou, comme dirait Martine Aubry, c'est qu'il y a un loup. Mais si le flou a été perdure depuis 30 ans, mettons un terme au flou, avec des règles puissantes, en disant ça, on n'a plus le droit de faire ça, etc. C'est ce qui a été fait dans la vie politique, avec les financements des partis politiques il y a quelques années quand même.
Mais
Donc je dirais que
vous disculpez par exemple d'avance François Fillon des reproches qui lui sont faits.
Si vous voulez, je ne veux pas m'exprimer sur ce sujet parce que c'est tellement filandreux, tellement compliqué. On dit le tout et son contraire. On fait le procès de quelqu'un. Moi, je ne vais jamais aller que ce soit un homme de gauche ou un homme de droite ou un chef d'entreprise. Il y a des instructions en cours. Eh bien, que l'instruction fasse son boulot. Moi, je ne vais pas m'exprimer sur des affaires qui sont très médiatisées. Vous comprenez bien que c'est très très compliqué et que voilà. Donc moi, sur ce sujet-là, aucun commentaire. Par contre, il est clair que s'il y a des poches de flou qui ont été encore conservées, on sait que les chiffres disent qu'il y a un tiers à moitié des sénateurs et des élus qui ont travaillé de façon un peu particulière. Si c'est toléré, c'est toléré. Si c'est plus toléré, il faut le dire précisément. Dans nos entreprises, on fait des règlements intérieurs. Lorsque vous avez des choses qui vont pas bien ou qui sont à préciser, vous les précisez.
Mais chez Radial, par exemple, est-ce qu'il est imaginé que quelqu'un soit payé pour un travail qu'il n'effectue pas?
Mais non, bien sûr que non, si vous voulez, c'est pas imaginable. Mais ensuite, après, il faut transposer ça en effet à la vie politique. Et la vie politique, d'abord, il faut savoir si c'est vraiment effectué ou pas effectué du tout. Et là, vous avez l'instruction en cours. Là, c'est pour ça que je ne porterai aucun jugement par rapport à l'instruction en cours.
Vous avez dit que vous étiez d'accord avec le programme de François Fillon était celui qui vous satisfaisait le plus.
Bien sûr.
Et vous avez même, il y a quelques semaines, dit que la candidature de Fillon était enthousiasmante. C'est votre mot. Alors, est-ce que au vu des derniers événements, de l'ambiance, vous diriez toujours que cette candidature est enthousiasmante?
Je n'ai pas dit qu'elle était enthousiasmante, je me suis toujours exprimé sur le programme économique des cinq candidats majeurs. Mm-hmm. Je ne me suis surtout pas exprimé sur le programme politique général ou la personnalité. Ça, c'est un autre problème, ça me concerne moi. Bon, en tant que président du MEDEF, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des analyses avec plein de gens sur les programmes économiques. J'en vois deux qui vont dans le bon sens, pour redresser la France, pour retrouver la confiance des chefs d'entreprise, celui de M. Fillon et de M. Macron, et j'en vois trois qui sont juste désespérance, désespoir et sans doute appauvrissement du pays. Celui de Martine Le Pen, de M. Hamon, de M. Mélenchon. Donc voilà.
Marine Le Pen.
Oui, bien sûr. Et donc après, si vous voulez, je raffine un tout petit peu, en disant le programme de M. Fillon nous semble, sur le plan économique, toujours pareil, vraiment a été construit depuis des années, etc., et rigoureux et cohérent, par rapport à l'objectif du plein emploi, que j'aime bien et qu'il a affiché. Et bravo, les autres l'ont pas affiché. Donc c'est une force. Et deuxièmement, il a affiché aussi d'être première économie à terme. La France devrait être la première économie à 10 ans. C'est ça que j'ai trouvé enthousiasmant. C'est l'objectif qu'on peut se fixer tous ensemble pour faire gagner la France, pour partir vers l'assaut du monde, à la conquête du futur. Aujourd'hui, ça fait 30 ans.
C'est un peu incantatoire.
C'est pas incantatoire, c'est ce qu'on fait dans nos entreprises. Si vous n'avez pas de vision d'une entreprise d'objectif, d'abord, vos salariés vous suivent pas. Et il faut toujours avoir des objectifs de rêve, de conquête, d'Eldorado. Ce sont des objectifs, ce sont pas des engagements, ce sont des objectifs. Mais pour avoir vos équipes, c'est comme une équipe de football, si vous voulez la faire progresser, et si vous dites on va essayer de gagner le prochain match, bon c'est bien, mais on aimerait bien être le champion de la Ligue 2, puis ensuite on va monter en Ligue 1, et puis ensuite on va monter en Ligue des Champions. Sinon vous progressez jamais. Donc je pense que ça manque cruellement en France d'avoir de l'ambition et un rêve pour la France à 5-10 ans. Voilà ce que je voulais dire. Et M. Macron va un peu moins loin. Il va dans le bon sens, mais vous voyez, sur la baisse du coût du travail, par exemple, je vous donne un exemple, c'est très très flou. Il ne baisse pas le coût du travail aujourd'hui dans son programme. J'attends qu'il fasse des précisions sur ce sujet-là. Il veut transformer le CICE, le fameux crédit impôt, croissance, emploi, en allègement de charges qui vont pas suffire pour baisser ce coût du travail, la fiscalité du coût du travail. Ça, c'est le premier exemple. Sur l'assurance chômage, il repense à taxer les contrats courts, ce sur quoi nous sommes complètement opposés au niveau du MEDEF.
Bon, il y a quelques... Mais on a l'impression que vous attendez toujours tout des politiques et que les entrepreneurs s'exonèrent de toute responsabilité.
Alors, je vais vous dire,
dans la situation de l'économie française et de leurs entreprises elles-mêmes.
Non, vous savez, c'est très simple. Nous, entrepreneurs, c'est quoi notre travail? C'est d'innover, c'est de créer, c'est de chercher, c'est de faire des composants ou des produits ou des services qui répondent à des marchés, c'est la satisfaction du client, c'est de s'automatiser, c'est de se digitaliser, c'est de motiver nos hommes et nos femmes, c'est de les former tout le long de la vie. Vous vous rendez compte les responsabilités qu'on a pour un chef d'entreprise? Pour qu'on fasse tout ça, on a besoin de marge. Et tant que nos politiques n'ont toujours pas compris que pour faire l'exportation, la globalisation, le pouvoir d'achat des Français, prendre des apprentis, il nous faut quatre choses. Il nous faut des marges qui soit correcte et donc une fiscalité qui soit compétitive, ce qui n'est pas le cas en France, première réforme. Il nous faut de la flexisécurité à la française pour éviter que la plupart de nos patrons aient peur d'embaucher en France, encore, malheureusement. Il nous faut une simplification de la bureaucratie, troisième bloc de réforme. L'administration française est très très lourde, très compliquée. Et puis, quatrième bloc, il faut retravailler sur les talents, les compétences, l'enseignement, l'apprentissage. Vous voyez, c'est très simple. Et ça, ces quatre blocs de réforme, ils ont été faits depuis 30 ou 40 ans par tous les dragons asiatiques, par la Chine, par la Corée du Sud, par Singapour, par le Canada, par l'Angleterre, par tous ceux qui sont dans le classement mondial des économies les plus performantes, en disant la chose suivante, pour faire de la croissance et de l'emploi, il n'y a que l'entreprise, c'est la plus belle institution au monde. Et ça, si vous voulez, j'entends ces discours-là dans les programmes de Fillon et de Macron, je ne les entends pas encore dans les programmes des trois autres concurrents.
Julien, en France, le gouvernement a créé en 2013 le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, oui. Le CICE.
Oui.
Le but, c'est de redonner de la compétitivité.
Oui.
Quel bilan vous en faites ?
180 000 emplois créés en France l'année dernière en 2016. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque j'ai dit on peut recréer 1 million d'emplois à 5 ans si des réformes sont faites. Il y avait ces 4 blocs de réformes que j'avais en tête. Il n'y en a eu qu'un seul bloc qui a été fait, c'est-à-dire ce pacte de responsabilité, ce CICE, qui a permis de mettre 40 milliards de baisse de la fiscalité, de charges sur les entreprises. Bravo. Eh bien, dans un environnement 2016, où il n'y avait pas de croissance, 1%, très faible, et de méfiance encore des chefs d'entreprise à l'égard du pouvoir politique, à cause de la pénibilité, de taxes locales qui ont augmenté, eh bien nous avons quand même créé presque 200 000 emplois par an sur un an. Vous vous rendez compte que si vous mettez les trois autres blocs de réforme et un peu de confiance dans les chefs d'entreprise, eh bien ça peut aller plus loin. Eh bien 200 000 emplois par an multiplié par 5 ans, vous êtes à 1 million d'emplois. Vous savez, il faut toujours penser que les Allemands l'ont fait, 1 million d'emplois en 5 ans, et les Anglais l'ont fait par des réformes importantes, ils ont fait 2 millions d'emplois en 5 ans. Donc moi je dis, voilà, le constat c'est lorsqu'on baisse les charges des entreprises, eh bien vous redonnez de l'air pour automatiser, pour investir, pour embaucher, pour prendre des apprentis. C'est très bête, plus vous asphyxiez de charges et de taxes les entreprises qui soient artisans, commerçants, entrepreneurs, eh bien plus moins vous leur donnez la possibilité de
justement,
se développer.
Ces marges retrouvées, est-ce que les entreprises les utilisent pour aller à l'export ? C'est un de vos chevaux de bataille,
oui,
l'export.
Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit, est-ce que pour répondre à la question précédente, en fait, qu'est-ce qu'on fait nous MEDEF, si vous voulez, on n'attend pas la baisse des charges bêtement en criant à toutes les radios baisser les charges, on passe à l'action. Mais il faut le faire parce que si vous voulez, il faut que les politiques le comprennent un jour ou l'autre, si vous voulez. Donc on le criera tant qu'on ne sera pas au niveau européen. Pour vous donner un exemple, c'est 32% les marges des entreprises en France, après le pacte de responsabilité, elles sont autour de 40% pour simplifier sur la moyenne européenne et l'Allemagne, à 41%. Donc vous avez encore 8 points de différence de marge.
Est-ce que c'est cela qui explique qu'il n'y ait que 1% des entreprises françaises qui exportent ?
Oui, ben si vous voulez, oui, parce que ça fait 30 ans que ça dure. C'est les fameuses 30 piteuses de Nicolas Bavrez. Il faut qu'on s'en sorte de ces 30 piteuses françaises.
L'historien, économiste, avocat, écrivain, Nicolas Bavrez.
Et vous savez, c'est matérialisé tout simplement par un autre chiffre. Je ne voudrais pas être trop compliqué pour nos auditeurs, mais les dépenses publiques françaises représentent 57% du PIB français. Moyenne européenne, 49%. Nous sommes 8 points de plus de PIB. Donc on a une sphère publique énorme.
Ça sert d'amortisseur en période de crise.
Et qui fait que, non, pas du tout, parce que ça sert pas du tout d'amortisseur. Vous avez en fait un cheval avec un jockey au-dessus qui est très gros. Les chevaux sont les entrepreneurs et les entreprises. C'est une image de mon ami Xavier Fontanet avec un jockey qui est obèse. Donc il y a un moment on peut plus porter le jockey. Donc les entreprises françaises ne peuvent plus porter ce fardeau. Donc ensuite, si vous voulez, pour revenir à votre question sur l'export, oui, le MEDEF toutes les 6 semaines, et je m'implique dans ces délégations, nous parcourons le monde. Nous avons été 4 ou 5 fois en Afrique. Depuis 3 ans, nous avons été en Asie une ou deux fois, aux États-Unis plusieurs fois. Et donc j'emmène des PME, des TPE, des ETI, des instituts de formation avec moi. Donc parfois on est 30 ou 40, parfois on est 100 ou 150 dans les délégations. Le problème de l'économie française, en effet, c'est que cette fiscalité peu, je dirais, défavorisante, fait que les petites entreprises n'ont pas grandi. Elles n'ont pas grandi parce que c'est une fiscalité coercitive encore et parce que le droit du travail est trop compliqué. Donc on voit beaucoup d'entreprises bloquées à 9 salariés ou à 49 salariés. Et donc pendant ce temps-là, les entreprises allemandes se sont développées et ont été à la conquête du monde.
Pierre Gattaz, vous êtes le grand invité de l'économie et RFI Jeune Afrique. Et nous nous retrouvons dans 3 minutes après un flash d'actualité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Sur RFI.
internationale. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs, dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Avec Julien Clémenceau de Jeune Afrique, nous recevons Pierre Gattaz, le président du MEDEF. Au cours de la première partie de l'émission, nous avons surtout parlé de la France. À quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, vous nous avez dit, Pierre Gattaz, que deux programmes rencontraient plus ou moins votre assentiment, plutôt plus pour celui de Fillon et plutôt un peu moins pour celui d'Emmanuel Macron.
Et de la croissance et de l'emploi en France.
Mais maintenant, revenons à la relation que vous entretenez avec l'Afrique, puisque vous dirigez depuis 2012 l'entreprise créée par votre père et par votre oncle, spécialisée dans les solutions d'interconnexion qui sont utilisées dans les télécoms, dans l'industrie médicale, dans l'aéronautique. Cette entreprise, elle est présente en Europe, en Asie et en Afrique.
Non, alors nous, Radial fait des composants électroniques et en effet nous vendons aux grands équipementiers aéronautiques au monde et télécom. Et en fait l'aéronautique c'est l'Europe avec Airbus principalement, tous les sous-traitants, c'est les États-Unis avec la sphère Boeing et les militaires, les avions militaires. Et en télécom c'est surtout la Chine qui a pris le relais depuis 20 ans avec des équipementiers comme Huawei, ZTE, etc. Et en Afrique, comme je n'ai pas encore d'équipementier, je ne livre pas encore de composants, à part un peu en Afrique du Sud. Mais c'est vrai que le développement africain que j'espère dans les 30 prochaines années, j'espère que on verra émerger des équipementiers dans ces domaines-là, progressivement, télécom, je l'espère, avant tout, aéronautique peut-être un jour, et je pourrai livrer mes composants à ces équipementiers africains.
Question de Julien Clémenceau.
Quand vous avez pris la présidence du MEDEF, vous connaissiez pas l'Afrique. Depuis, vous avez fait, vous nous l'avez dit, un certain nombre de voyages en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Nigeria. Quel regard portez-vous sur le continent ?
Mais écoutez, je porte un regard presque affectueux avec l'Afrique, parce que
ça pourrait être pris pour de la condescendance.
Non, pas du tout, parce que je trouve qu'il y a une chaleur humaine et que les gens que je vois tous me disent, Monsieur Gattaz, revenez en Afrique. C'est ça qu'ils me disent. Pourquoi ? Alors, parce que je représente les entreprises. Et ils me disent, vous, les entreprises françaises, vous avez déserté l'Afrique. Et vous êtes passé de 10% de part de marché à 5%, à moins de 5% en 15 ou 20 ans. Vous avez laissé la place aux Chinois, aux Turcs, aux Espagnols, aux Portugais. Vous n'êtes plus là. Revenez. Revenez pourquoi ? Revenez pour créer de l'emploi. Parce qu'on a besoin d'emploi, désespérément, Monsieur Gattaz. Voilà ce qu'ils me disent, les Africains. Et je trouve ça sympathique, si vous voulez, moi qui n'ai pas du tout l'histoire de l'Afrique et des relations France-Afrique, etc. Moi, je suis totalement vierge sur le continent africain. Je vois des gens, en effet, dynamiques. Je vois beaucoup de jeunes très dynamiques, entrepreneuriaux. Et je me dis, mais c'est quand même extraordinaire. La France a une place à prendre parce que culturellement, historiquement, nous avons un lien avec l'Afrique. Nous avons laissé une langue à 40%. C'est facile, c'est le même fuseau horaire, quasiment. Et donc vous avez des gens qui vous disent, mais revenez. Donc oui, je ne vais pas commencer à dire...
Vous êtes attendu, donc, c'est ce que vous nous dites. Mais alors, qu'est-ce qui vous a convaincu de l'importance du continent pour les entreprises françaises ?
Il faut faire attention à une chose, c'est que il faut y aller avec une mentalité d'entrepreneur. J'insiste beaucoup là-dessus.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'un entrepreneur, d'abord, on travaille d'égal à égal, avec n'importe qui. Deuxièmement, on apprend de tout le monde. Troisièmement, je voudrais vraiment insister sur, il n'y a pas d'arrogance. Moi, je vois parfois une France où des anciens, je dirais, hauts fonctionnaires, il y a eu une époque, bon voilà.
Dans le milieu des affaires aussi.
Oui, un peu. Moi, je trouve que
c'est... Vous voulez dire un esprit colonial?
Non, c'est pas colonial, parce que je sais pas ce que ça veut dire l'esprit colonial. Je pense qu'il faut considérer ce développement économique comme un développement économique formidable, une opportunité d'abord pour les Africains, et ensuite, je dis que la France et l'Europe, mais l'Europe dans la France peut jouer un rôle pour accompagner ce développement africain avec un objectif de créer de l'emploi, c'est-à-dire du développement inclusif.
Qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? C'est créer de l'emploi en Afrique ou développer l'Afrique pour créer de l'emploi en France ?
Mais les deux, mon général. Parce que quand vous créez de l'emploi et vous développez un flot d'affaires avec un continent qui est aussi gros que l'Afrique, qui va passer encore de 1 milliard d'individus à 2 milliards, c'est énorme. Eh bien, l'idée, c'est de créer des emplois dans une approche gagnant-gagnante, c'est ça que je voudrais dire. Et qui, de faire que nos entreprises, si vous y allez pour 6 mois pour faire un coup, vous revenez, vous n'avez rien fait du tout, vous avez fait un peu de business, mais c'est pas ça qui nous intéresse. En tout cas, c'est pas ça qui m'intéresse, dont, je dirais, pour l'Afrique et pour la France, et pour la relation pérenne et durable et constructive entre les deux, entre le continent et la France. Donc voilà, je pense que lorsque vous créez des emplois en Afrique par des installations, eh bien, vous créez de l'emploi en France. Moi, je l'ai fait au Mexique. J'ai créé 800 emplois au Mexique pour attaquer le marché aéronautique américain. Eh bien, figurez-vous que chaque fois que j'ai créé 2,5 emplois au Mexique, j'en ai créé un en France. Un emploi. Pourquoi ? Parce que c'est une boucle vertueuse. Vous prenez des parts de marché, vous augmentez, les Mexicains sont extrêmement contents parce qu'ils ont du boulot, puis vous augmentez vos parts de marché, vous augmentez votre rentabilité, qui vous permet ensuite d'investir à la fois en France sur de l'innovation, des ingénieurs, des matériaux, des process très sophistiqués, parce que la France est coûteuse, elle a un coût du travail élevé, donc on peut pas faire du low cost. Et puis vous apportez, grâce au Mexique, vous apportez de l'emploi à des familles mexicaines, c'est du gagnant-gagnant. Et vous voyez, la mondialisation est vertueuse si vous la prenez dans la durée et de façon inclusive.
Vous disiez tout à l'heure que vous aviez investi à perte, en quelque sorte, pendant plusieurs années pour gagner le marché de Boeing aux États-Unis. Vous, en tant que patron de votre entreprise Radial, est-ce que les entreprises françaises doivent être prêtes à investir également à perte en Afrique pendant X années pour construire un marché, une clientèle?
Ce ne sont pas des investissements à perte qu'on a fait, ce sont des investissements en effet qui n'étaient pas rentables au début, mais la société Radial était rentable dans sa globalité quand même, avec une faible rentabilité pendant ces grosses années d'investissement. Vous avez raison. Moi je crois qu'en effet, l'Afrique, il faut le voir comme un marché extrêmement dynamique, un marché du futur, où il y a beaucoup de choses à apporter, et encore une fois, il faut le faire avec des investissements locaux, avec de l'apport de technologie, et encore une fois, croisé. Parce que on peut apprendre beaucoup de nos amis africains et des jeunes africains sur l'Europe. Donc vous voyez, moi j'ai vu des technologies, notamment sur les mobiles, là, complètement appliquées avec des applications très africaines qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement simples. Et faire du simple dans le monde qui bouge, c'est extrêmement compliqué. Et moi j'ai vu de la simplicité en Afrique aussi.
Est-ce que vous croyez en une Afrique industrielle ?
Oui, moi je crois à tout pour l'Afrique. Moi je crois à tout. Je crois que tout est possible en Afrique. Il faut juste en effet qu'on s'y attelle correctement, qu'on ait un travail dans la durée. Il faut mettre de l'industrie. L'industrie, c'est précieux pour les pays. En France, on est tombé à 12% du PIB. C'est beaucoup trop bas. Les Allemands sont restés à 18%, les Suisses sont à 25%. Il faut que l'Afrique, on recrée une industrie africaine. En plus, vous avez des matières, il y a des matières premières partout en Afrique qui sont très souvent peu exploitées. Donc, il faut monter dans la valeur ajoutée de la transformation de ces matières premières, qu'elles soient agricoles, sur place, qu'elles soient agricoles, minières, etc. Donc, il y a un formidable potentiel de ressources naturelles. Et je pense qu'un des axes de développement fort et plus simple, c'est de monter dans la valeur ajoutée et de faire des transformations de produits localement de plus en plus.
Alors Pierre Gattaz, la France n'est pas la seule à s'intéresser au continent africain. Des intérêts privés allemands avaient organisé la semaine dernière une réunion à Berlin avec des représentants africains, parmi eux le directeur général de la BRVM, la Bourse d'Abidjan. Et donc aussi Amin Mouvé qui explique les raisons de sa présence au micro de Stanislas Daïchimier de RFI.
Aujourd'hui, l'orientation que l'Allemagne prend en termes d'investissement sur le continent africain nous réjouit. Cette première économie européenne a un rôle plus important à jouer sur le continent. Il faut que nous puissions avoir des partenaires allemands. Ils ont de la technicité reconnue dans certains domaines, notamment dans les énergies renouvelables, dans les infrastructures. Ils regardent aussi des investissements dans le secteur de la grande distribution, de la consommation. Et je pense aujourd'hui que c'est le moment de permettre que ces investisseurs allemands puissent venir sur le continent et s'intéresser aux pays qui offrent de grandes opportunités. Malheureusement, nous avons constaté que ces investissements sont essentiellement dirigés vers des pays anglophones, notamment le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya. Et les pays francophones ne semblent pas véritablement encore être sur les radars. Je crois aujourd'hui que nos pays offrent des opportunités intéressantes. La Côte d'Ivoire en particulier, où est basée la BRVM. Et par conséquent, ma présence ici, c'est de montrer aux Allemands que l'Afrique francophone a du potentiel, qu'il faut qu'ils s'intéressent à l'Afrique francophone Il faut qu'ils viennent regarder les opportunités.
L'Allemagne, sacré concurrent, Pierre Gattaz, sur les marchés africains.
Sacré concurrent, ils sont... L'Allemagne, si vous voulez, c'est le pragmatisme absolu. Et je reviens à notre première partie de la conversation, ils ont juste compris qu'il fallait nourrir leur peuple, donner du travail aux gens, former les apprentis, et que l'entreprise, c'est un lieu de vie, un lieu de richesse, un lieu de dignité humaine. Quand vous avez compris ça, et que les syndicats, partenaires sociaux, locaux, allemands, que j'ai rencontrés à plusieurs reprises, quand ils me disent notre seul mot d'ordre, c'est la compétitivité de nos entreprises, Monsieur Gattaz, voilà ce que me disent les syndicats allemands, ils ont tout compris. Donc si vous voulez, le pragmatisme allemand est là, ils font des choses, c'est première économie européenne, et ça va nous faire en effet une compétition. C'est un aiguillon, c'est intéressant qu'ils s'occupent de l'Afrique et qu'ils s'intéressent à l'Afrique, mais on n'a pas nié notre dernier mot, parce que je peux vous dire qu'on a des filières d'excellence extraordinaires en France, on a des ingénieurs de talent, on a des entreprises formidables, il faut juste en effet que le continent africain revienne dans les priorités des radars, notamment de nos politiques.
Le MEDEF aussi essaie d'élargir le spectre des entreprises françaises en s'intéressant notamment aux pays anglophones. Où est-ce qu'on en est et comment avancent ces démarches?
Je crois que le plus simple, si vous voulez, surtout si on veut emmener des PME françaises, je dirais la partie francophone est plus simple pour des primo-exportateurs, etc. Parce qu'on parle le français, c'est quand même déjà plus simple. Mais en effet, la plupart maintenant des entrepreneurs français parlent très bien l'anglais. Au fur et à mesure que les jeunes générations arrivent en puissance, il faut regarder ça d'une façon générale. Alors après, il faut pas tout manger, je dirais, d'un seul coup. Il faut quand vous êtes, je crois qu'il faut commencer par des marchés, par un pays, par un deuxième pays, mais en effet, je dis toujours, la francophonie a une force par rapport à l'anglophonie, c'est que la francophonie parle l'anglais en général. Et je dis toujours, la meilleure francophonie, c'est celle qui parle couramment l'anglais. Pourquoi ? Parce que dans le domaine business, malheureusement, l'anglais est très parlé. Par contre, ce que je vois, c'est que dans l'anglophonie, il y a très peu de gens qui parlent le français. Donc vous voyez, en étant francophone, vous avez un atout supplémentaire pour vous occuper de tout le continent africain.
Est-ce que vous avez des échos positifs du Nigeria, du Kenya, concernant les entreprises françaises ?
Oui, moi j'ai été très bien accueilli de nouveau, si vous voulez, au Nigeria. Quand j'y suis allé, ils ont aussi une démographie galopante. Beaucoup de jeunes, 6 millions de jeunes Nigériens qui naissent tous les ans, si vous voulez. Donc une population, une démographie qu'ils ont besoin de nourrir, de loger, avec des infrastructures à la clé. Ils ont besoin de diversifier leur économie. Hein. Ça a été le premier PIB devant l'Afrique du Sud, le Nigeria. Ils sont retombés au niveau 2 parce que le pétrole a baissé. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour diversifier leur économie hors du pétrole. C'est pas encore suffisant. Ils ont besoin d'infrastructures, ils ont besoin de tout. Et donc, quand ils voient des Français et des délégations françaises, comme je l'ai fait il y a un an au Nigeria, on est accueillis les bras ouverts. Ils ont besoin d'entreprises, ils ont besoin d'emplois, ils ont besoin de tout. Revenez, venez les Français. Et d'ailleurs, ils me disent, on connaît pas très bien la France parce que nos relations France-Nigeria, c'est moins fort qu'avec l'Angleterre, bien sûr, ou le Royaume-Uni. Donc, encore une fois, quand vous parlez business, quand vous êtes sur le business, vous êtes sur l'emploi, vous êtes sur les technologies, vous êtes sur des choses fondamentalement importantes et qui n'ont pas des connotations politiques ou autres.
Pierre Gattaz, vous venez de dire que le Nigeria avait régressé du premier au deuxième poste en matière d'importance du PIB en Afrique,
oui,
à cause de la baisse des prix du pétrole, ce qui dénote chez vous un suivi assez important de l'actualité économique africaine. Comment est-ce que vous vous informez ? Sur l'Afrique.
Je travaille mes dossiers et puis j'ai des collaborateurs très performants qui sont passionnés par l'Afrique. Et puis on travaille avec MEDEF International, qui est notre bras armé opérationnel du MEDEF dans le monde entier. MEDEF International travaille à 40% pour l'Afrique depuis 15 ans, 20 ans maintenant. Et si vous voulez, il y a des
ça
délégations.
Ça a été très constructif.
Mais si vous voulez, parce que mes prédécesseurs au MEDEF étaient peut-être moins intéressés ou passionnés par l'Afrique, c'est vrai. Moi, je le suis parce que je vois des débouchés, encore une fois, très importants et un accompagnement d'un développement économique formidable.
Alors Pierre Gattaz, vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, Pierre Gattaz, président du MEDEF. Le MEDEF qui, dans le cadre de l'élection présidentielle française, a adressé un dossier aux divers candidats pour une politique africaine active de la France. Parmi les propositions que vous faites, le développement des passerelles avec le continent en matière d'éducation, de formation et d'employabilité. Est-ce que vous avez enregistré des réactions à ces propositions et lesquelles ?
Non, pas encore, si vous voulez. En fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire monter, en fait, le développement africain dans les priorités de chacun des candidats. Certains en parlent. Je crois que Emmanuel Macron a passé 6 mois au Nigeria en stage lorsqu'il était à l'ENA. Donc, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de l'Afrique dans l'élection présidentielle française. Pour moi, ça doit être une des priorités. Je dirais pas la priorité, mais une des priorités de la France et par rapport à une géopolitique, par rapport au monde qui bouge et qui tourne et qui doit se développer. Donc nous avons un rôle à jouer. Et donc nous avons fait une trentaine de propositions, en effet, que nous avons envoyées à toutes les équipes de tous les candidats. Pour l'instant, ils ont des préoccupations sans doute autres en fonction de leur journée, des désistements ou des affaires, etc. Bon, en tout cas, sachez que nous, on continue de diffuser des mesures très concrètes, très pragmatiques, autour de l'entreprise. Il faut remettre l'entreprise au centre du village, le village étant soit français, soit africain.
Julien,
vous mettez souvent en avant le potentiel de la francophonie, vous l'avez encore fait il y a quelques minutes. Est-ce que vous pensez que les écoles françaises, les écoles d'enseignement supérieur, accueillent suffisamment d'étudiants africains pour maintenir ce lien et le renforcer ?
Nous, on est pour l'ouverture. Et là encore, si vous voulez, quand j'entends certains candidats qui préconisent un repli sur soi-même, une sortie de l'euro, etc., c'est à 180 degrés de ce que nous préconisons. La France a 65 millions d'habitants, le monde est à 7 milliards d'individus. Donc vous avez 100 fois plus de personnes qu'il faut équiper, qui doivent manger, qui doivent se loger, qui doivent trouver du boulot. Donc si vous voulez, la France ne suffira pas elle-même en tant que marché, et donc forcément, ce que nous disons, c'est pour que nos TPE grandissent en PME, grandissent en ETI, en grand groupe, c'est à la conquête du monde qu'il faut aller, et c'est à la conquête de l'Europe, et c'est à la conquête, entre guillemets, de l'Afrique, sachant que il faut apporter, en effet, de l'éducation, faut aider ils ont besoin de tout, ils ont besoin d'apprentis, comme nous en France d'ailleurs, ils ont besoin de techniciens supérieurs, ils ont besoin d'ingénieurs, ils ont besoin de chercheurs en Afrique. Et il y a besoin des quatre niveaux. On essaye, et lorsque je vais en délégation, j'emmène ces instituts. J'ai emmené les arrêts métiers, j'ai emmené Central, j'ai emmené Mines Paris Télécom. Mines Paris Tech. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'en effet, ils se comportent aussi comme des entrepreneurs, voulant en effet démarrer des filiales ou des partenariats avec des équipes locales pour apporter des méthodes d'éducation, de la science, de la technologie, etc. Je trouve ça très très bien, parce que l'éducation, l'enseignement, c'est aussi une des clés de voûte du développement futur.
Alors, sans parler des programmes des candidats à la présidentielle, il y a des politiques qui sont menées depuis des années, un climat en France qui est assez peu attractif pour des migrants africains, pour des intellectuels africains, pour des étudiants africains. Vous craignez pas que ce climat nuise à la perception du message que vous voulez faire passer?
Quel climat? De quel climat vous parlez?
Je parle d'un climat où on ne veut pas de migrants. On ne veut pas de l'étranger.
C'est pour ça que nous prenons ça, là encore, à rebousse-poil. C'est-à-dire, en fait, nous disons, mais pour que la France se mondialise, la diversité est une force. La diversité, les talents, les compétences, c'est une force. La France doit être ouverte au monde. Moi, mon rêve, c'est que la France soit un Eldorado pour les entrepreneurs, pour les investisseurs, pour des talents venant du monde entier. Parce que pour aller à créer le futur, dans le numérique, dans la biotech, dans tout ce qui va nous arriver. J'ai une immensité de technologies.
Mais vous voulez qu'on ouvre les frontières à la migration? Alors, aux États-Unis, si vous le savez, d'actuels grands entrepreneurs sont d'anciens migrants qui sont arrivés dans des conditions difficiles.
C'est pour ça, si vous voulez, que le problème de l'immigration est un problème un peu particulier, parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, ça c'est clair, si vous voulez. Donc on n'a pas la possibilité de le faire, avec en plus 10% de chômage, il faut qu'on régule un peu. Par contre, il y a tous les problèmes politiques, en effet, de faire en sorte que les familles en désespoir qui fuient les atrocités, bon, il faut les accueillir, c'est évident, et il faut le faire très très bien, etc., au niveau de la possibilité d'accueil. Et deuxièmement, vous avez la possibilité, il faut accueillir des entrepreneurs, des gens qui veulent se former, des étudiants qui veulent se former le plus possible, se recroqueviller sur nous-mêmes. La France ne doit pas se replier, se recroqueviller sur nous-mêmes. Ça, c'est fondamental. Si vous voulez,
on entend régulièrement parler d'entrepreneurs africains qui ont des difficultés à obtenir leur visa pour venir faire des affaires en France.
C'est pour ça que nous poussons
des événements.
Vous avez raison, c'est pour ça qu'au niveau du MEDEF, nous poussons au fait que le monde est une opportunité extraordinaire et que nous avons besoin, et mon rêve, c'est que la France soit un Eldorado pour ses investisseurs, ses entrepreneurs, ses jeunes entrepreneurs, pour qu'ils créent leur entreprise. Moi, j'adorerais que des jeunes Africains, des jeunes Indiens, des jeunes Chinois qui ont une idée d'entreprise, se dire, tiens, où est-ce que je pourrais créer mon entreprise? Alors, à Londres, à Shanghai, à Singapour, ou à Silicon Valley, ou en France? Eh bien, que dans un ou deux ans, et on puisse dire, ah ben tiens, la France c'est bien, parce qu'il y a eu 3-4 mesures fiscales, parce qu'on accueille très bien nos étrangers et nos jeunes avec des visas qui on met pas un an, etc. Je crois que c'est fondamental qu'on ait un souci d'ouverture, alors régulé bien évidemment, mais d'ouverture, parce que le repli c'est extrêmement mauvais pour la France.
L'Afrique, Pierre Gattaz, certains de ses dirigeants disent qu'elle a raté la seconde révolution industrielle, celle du 19e siècle, et qu'elle ne doit pas rater la troisième, celle du digital ou du numérique. Écoutez ce qu'en dit Jean-Michel Huette, un des auteurs du livre « Le digital en Afrique », à paraître le 10 avril prochain aux éditions Michel Lafon. Il est interrogé par Stanislas Daïchimier.
Il y a de plus en plus de choses qui se font en Afrique autour du numérique. L'Afrique, si on l'avait regardé il y a 15 ans, on aurait dit « il n'y a rien, très en retard ». Il y a eu un formidable effet de rattrapage, d'abord dans les télécoms, parce qu'effectivement les télécoms, notamment la téléphonie mobile, a eu un grand succès en Afrique. Ensuite, dans un domaine innovant, pour le coup, l'Afrique a pris de l'avance, notamment sur l'Europe, à savoir le paiement par téléphone mobile, ce qu'on appelle le M-paiement, où là, pour le coup, l'Afrique est un peu le leader mondial en tant que continent dans ce domaine. Et puis maintenant, et c'est un peu les autres grands sauts dont on parle, eh bien, il y a plein de choses qui sont en train de se développer autour du e-commerce, du e-gouvernement. Le numérique, c'est très certainement dans les 10-20 ans qui viennent, le moyen pour l'Afrique de se développer. Et ça crée des emplois. Aujourd'hui, il y a beaucoup dans certaines grandes villes africaines des incubateurs, donc pour faire grossir des petites startups africaines autour du numérique. D'un autre côté, si je prends que la partie télécom, 10 points de pénétration de la téléphonie mobile, c'est un point de croissance en plus. Quand au Nigeria, on crée des systèmes qui permettent dans les villages reculés d'avoir un téléphone dans le village, ce qu'on appelle les village phones, c'est 400 000 emplois qui ont été créés. Alors je sais bien que le Nigeria est un pays très peuplé, mais 400 000 emplois, c'est quand même pas neutre.
Julien Clemenceau.
On a souvent l'impression, quand on parle d'entreprises françaises en Afrique, qu'il n'y a que les gros. Il y a Bouygues, il y a Bolloré, il y a Orange. Quid des PME, des TPE, des startups et justement des entreprises du secteur numérique.
Alors, pour aller dans le concret, parce que nous aimons le concret au MEDEF et en tant qu'entrepreneur, nous avons créé une association qui s'appelle l'AGIP. AGIP, qui veut dire Active Growth and Youth. En fait, c'est une association visant la jeunesse, l'entrepreneuriat, Afrique, France. Autour de trois choses. C'est un do tank, c'est pas un think tank, c'est un do tank, pour être dans le concret. Nous avons organisé donc des forums. Donc à Paris, au MEDEF, au mois de décembre, pendant 2 jours, il y a eu plusieurs centaines, peut-être milliers de personnes, jeunes entrepreneurs africains, jeunes entrepreneurs français, diaspora africaine en France, diaspora française en Afrique, qui sont des forces considérables et qui ne demandaient que ça, de se retrouver, de se voir, d'échanger pour créer des entreprises, soit en France, soit en Afrique. Ça, c'est le premier point. On distribue des awards, donc des médailles à des jeunes entrepreneurs africains, ou entrepreneuses, parce que là aussi, il y a de plus en plus d'entrepreneuses qui ont fait des choses remarquables. Donc on a commencé à distribuer quelques prix.
À quoi ça sert une médaille ?
Eh bien, ça permet de les mettre à l'honneur, de les motiver, de dire, voyez, cette personne, j'ai le nom d'une jeune Marocaine qui a fait ses études télécom en France, formidable, de 25 ans, qui a créé un site e-commerce pour vendre en Europe et en France des produits africains. Et en fait, elle est remarquable. Elle s'est lancée, elle s'est jetée à l'eau, eh bien, elle développe son site qui marche merveilleusement bien, elle est en train de créer de l'emploi. Et voilà, eh bien, voilà une jeune femme plein de talent, dont je ne me souviens plus le nom, je me souviens malheureusement, mais bon, tout ça pour vous dire que cette association AGIP, nous avons aussi créé une plateforme avec autour du moteur de recherche Quant. Moteur franco-allemand qui concurrence Google quelque part, pour nous aider à faire que ces réseaux de jeunes, de moins jeunes, de PME, de TPE, eh bien puissent aller vers l'Afrique et certains d'aller vers la France. Donc voilà ce qu'on nous essayons de faire concrètement, parce que vous avez parfaitement raison, à part Bouygues, Colas et quelques autres Orange, et bravo, heureusement qu'ils sont là, heureusement que ce CAC 40 existe. Eh bien, l'idée pour nous, c'est vraiment que des ETI et des PME...
Mais ils ont du mal à emmener leurs petits camarades.
Oui, parce que Pierre Gattaz, selon l'INSEE, les exportations françaises vers l'Afrique ne bougent pas beaucoup. On a l'impression que vous êtes en train de prêcher dans le désert. Parce qu'on était en 2017... au même niveau qu'en 2010.
Mais c'est ce que je vous ai dit, on a perdu des parts de marché depuis 15-20 ans. D'ailleurs, en Europe aussi et en zone euro, ce qui prouve que c'est pas le problème de l'euro, qui c'est le problème de charges et de compétitivité des entreprises françaises. Mmh. Et lorsque vous avez des charges trop élevées, vos marges se réduisent et vous n'exportez plus, vous exportez moins. Donc si vous voulez, il faut aller à la cause du mal à chaque fois. Quand Mme Le Pen, je reviens là-dessus, nous dit c'est le problème de la zone euro, non. En zone euro, depuis 15 ans, nous avons perdu des parts de marché. C'est bien un problème de non pas d'euros, mais de charges, de compétitivité. Il faut que juste que nos politiques de droite et de gauche comprennent ça une bonne fois pour toutes, définitivement. Et vous, je peux vous assurer que, avec tous les efforts que nous faisons au MEDEF, de délégation, d'emmener des PME, de l'association AGIP, de forums physiques, et bien, je pense qu'on va y arriver. Alors, ça prend du temps, redresser ce commerce extérieur et ses relations, ça prend du temps, mais on est extrêmement tenace et téméraire.
Enfin, une dernière question de Julien Clémenceau.
Alors,
une réponse brève, Pierre Gattaz.
L'an dernier, vous êtes allé en Côte d'Ivoire, vous avez dit apprécier la philosophie du gouvernement ivoirien. Ces derniers mois, une grande partie de la population est descendue dans la rue parce qu'elle estime ne pas profiter assez de la croissance de ces 5 dernières années. Quelle est votre réaction ?
Écoutez, c'est des problèmes politiques internes. J'ai pas de réaction particulière.
Il y a une croissance très importante qui était de 9% par an, et il y a un vrai problème de redistribution. Et ça, c'est un problème important pour les pays africains. La croissance inclusive.
C'est des problèmes, bien sûr. Il faut absolument créer du développement local. Développement local et tant mieux qu'il y ait de la croissance, c'est déjà une bonne chose parce que c'est le nerf de la guerre, la croissance, pour recréer des entreprises, de l'emploi. Donc après, en effet, c'est un problème politique de meilleure redistribution ou de. Donc là, je suis pas suffisamment compétent pour vous répondre dans le détail sur ce sujet-là.
Eh bien, en attendant la prochaine émission, le prochain rendez-vous avec vous, Pierre Gattaz, pour vous reposer la question, en espérant que vous pourrez y répondre plus complètement. Merci, Pierre Gattaz, d'avoir
Merci
été
beaucoup.
Le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. On peut retrouver cette émission sur les sites internet de RFI et de Jeune Afrique. Guillaume Munier et Pierre Chaffangeon ont assuré la réalisation, la mise en onde de cette émission. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Appelez-nous, exprimez-nous.